Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le bonheur aujourd'hui de recevoir le père Louis-Marie Arignaud-Durand, dominicain, aumônier international des équipes du Rosaire, ce qui le conduit à parcourir le monde. Le père Arignaud-Durand est aussi, vous le savez bien, car il est intervenu déjà plusieurs fois sur cette antenne, l'auteur de livres de spiritualité d'une très grande qualité. Bonjour mon père.
Bonjour madame Bernèche.
Mon père, vous avez publié entre autres Rosaire un jour, Rosaire toujours, Fatima, n'en parlez pas, c'est un secret, je recommande chaudement à nos auditeurs, De toi à moine, tous parus aux éditions du Cerf, et vous venez de publier, précisément quelques jours avant les célébrations de Paumain, un très beau livre, Paumain, Couleur d'espérance, toujours aux éditions du Cerf, 180 pages, vendu 14 euros. Mon père, comment êtes-vous arrivé à Paumain? Vous dites d'emblée que ce n'est jamais par hasard.
Mais je dis toujours que le hasard n'existe pas, qu'il ne fait pas partie du vocabulaire chrétien. Mais c'est en voyant le nom de Paumain sur un panneau, en passant en voiture, que je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un détour? Alors comme, c'est très prétentieux de le dire, mais comme Moïse qui ne s'attendait pas à voir le buisson qui brûlait et qui fait un détour, eh bien j'ai fait un détour et je crois que je me suis laissé un peu brûler par un sanctuaire bien particulier.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a exactement 21 ans, en 1998. J'étais en Mayenne pour un petit déplacement et j'ai vu ce panneau de Paumain alors que bon, je suis natif de Cholet, dans Maine-et-Loire, un département voisin, et je n'avais jamais mis les pieds à Paumain.
Vous connaissiez tout de même au moins le nom?
Juste le nom.
Oh, désespoir pour le postulateur mayennais que je suis.
Mais justement, ce 150e va être l'occasion de faire découvrir pour moi. C'est absolument merveilleux de voir la réaction des gens qui ne connaissent absolument pas pendant. Quand on leur raconte l'histoire de l'apparition, ils sont sous le charme, émerveillés. Ça permet un effet féerique.
Mais c'est absolument féerique.
Oui.
C'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire rare, c'est une histoire, j'allais dire, unique, parce que dans toutes les histoires des apparitions mariales, celle-là est véritablement hors du commun. Ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable en vous lisant, c'est que nous le disions à l'instant, Paumain reste méconnu, même dans la région. Pourtant, bien que vous fassiez le même constat, vous racontez avoir découvert par des détours providentiels, vous qui voyagez beaucoup, la présence de Notre-Dame de Paumain, ou de Notre-Dame d'Espérance, si vous préférez, aux quatre coins du monde.
Oui, je l'ai retrouvé aux États-Unis, dans un sanctuaire de l'Immaculée Conception de Washington, qui est un sanctuaire national dans la capitale fédérale des États-Unis. Cette basilique est juste en face de notre couvent d'études dominicains, donc c'est la visite obligée. Et il y a 2 ans, je crois, en descendant dans la crypte, il y a une chapelle de Our Lady of Hope, Notre-Dame d'Espérance, avec très stylisée, très moderne, Notre-Dame de Paumain, avec on reconnaît très bien la croix qu'elle tient, avec le titre Jésus-Christ. Et il y a là, dans la chapelle, l'histoire de l'apparition de Paumain. Alors ce qui est assez drôle, c'est que cette chapelle a été financée par un monsieur qui s'appelle Hope, donc Espérance. On traduit son nom, et il a trouvé qu'il était très beau d'avoir une Notre-Dame à son nom. Donc il a amené Notre-Dame de Paumain outre-Atlantique.
Alors c'est très remarquable, parce que vous m'avez envoyé, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer la photographie de cette statue. Il faut savoir que c'est Notre-Dame de Paumain, ça ne saute pas aux yeux au premier regard.
Oui, dans un premier temps, pour la couverture de mon livre d'ailleurs, je cherchais quelque chose qui soit un petit peu original, mais cette Notre-Dame de Paumain était vraiment trop originale. Bon, on m'a fait remarquer que les Pontaminois ne la reconnaîtraient pas, donc je l'ai gardée pour mes archives.
Mais vous avez eu des clins d'œil de ce genre un peu partout dans le monde, en Afrique, me semble-t-il?
Oui, en Afrique. En fait, dans le livre, je parle plutôt de Notre-Dame de la Prière de l'île Bouchard.
Oui, c'est vrai, mais vous parlez d'une toiture qui vous rappelle le diadème de Notre-Dame de Paumain.
Oui, ça c'était au Togo, en revanche, où dans une paroisse où nous sommes allés avec ma collègue des équipes du Rosaire International, la responsable internationale, nous sommes allés dans une paroisse de Lomé, à Véposo exactement, où le curé a fait tout un parcours pour ses paroissiens. Donc lorsque l'église, le grand bâtiment est fermé, eh bien, il y a sur la gauche la possibilité de gravir une scala santa, un escalier saint, pour monter à genoux jusqu'à la croix. Puis on redescend vers une chapelle où le Saint-Sacrement est exposé 24 heures sur 24. Et en sortant, on trouve ce qu'ils appellent une grotte, même s'il n'y a pas de grotte, mais il y a la statue de la Vierge Marie. Et au-dessus, eh bien, le toit ressemble à s'y méprendre, à la couronne de Notre-Dame de Pontmain. Ce qui est assez, en même temps, extrêmement touchant et amusant comme un clin d'œil du Seigneur de trouver cette couronne, parce que la Vierge Marie apparaît rarement avec une couronne.
Est-ce que c'était volontaire, cette ressemblance, ou pas du tout?
Absolument pas. Je crois qu'il y avait un côté sans doute pratique. Et quand j'ai vu cette couronne, je l'ai dit au curé, je ne connais pas pour moi.
Oh, je l'attendais.
Hélas, les gens ne connaissent pas mon nom, mais c'est justement ça qui est extraordinaire. Lorsque j'ai proposé ce livre, on m'a dit, mais pour moi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le recteur actuel du sanctuaire, le père Renaud Saliba, qui, lorsqu'il a lu le livre que j'avais écrit sur Fatima, m'a dit, mais nous n'avons rien qui nous fasse réfléchir vraiment sur pour moi. Nous avons beaucoup de livres qui font prier avec pour moi, qui décrivent pour moi, mais quel est le lien de pour moi avec notre vie de tous les jours?
Je garantis nos auditeurs que là, ils vont trouver la réponse à cette question.
J'espère.
Vous disiez tout à l'heure, mon père, que vous vouliez une couverture originale. Je crois que vous étiez parti sur l'idée des vitraux. Les vitraux sont magnifiques. Nous le savons tous les deux, nos auditeurs aussi. Et votre approche passe justement, et c'est très original, par ces couleurs, les couleurs de l'apparition, celles des vitraux. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche?
En fait, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Je ne croyais pas au coup de foudre. Le jour où je suis entré dans cette basilique, la première fois, j'ai été subjugué par la lumière, par les vitraux. Et les différents séjours que j'ai pu faire à Pontmain ont vraiment confirmé cette expérience et ce sentiment. La basilique de Pontmain n'est jamais la même. Même au cours d'une même journée, la lumière change, le soleil évidemment bouge. La terre qui tourne autour de lui, mais les vitraux donnent une ambiance extrêmement particulière. Quelqu'un ce matin me faisait remarquer que je parlais dans le livre du fait qu'il fallait contempler Pontmain. Oui, Pontmain se contemple, il faut prendre le temps de regarder, de se laisser comme la basilique habillée de lumière. Et c'est vrai que j'ai été très touché par toutes ces couleurs. Et c'est ce qui donne le titre d'ailleurs au livre, hein, Couleur d'espérance. Voir comment Notre-Dame d'espérance va faire resplendir la lumière de son Fils sur les couleurs de notre vie.
Beaucoup de pèlerins se laissent arrêter par l'atmosphère un peu grise de Pontmain, le ciel hivernal, la brume, le crachin, la pierre grise de la basilique. Vous le dites très bien, pour comprendre Pontmain, il faut y entrer, comme il faut entrer dans le mystère de la foi.
Oui, effectivement, et le gris et le sombre que nous avons ces jours-ci, justement, donne son charme à Pontmain aussi. Bon, je suis un petit gars de l'Ouest, je suis né à Cholet, donc dans le Bocage, mais un peu plus au sud de Pontmain, exilé à Nice, cette grisaille me manque. Les Niçois qui m'entourent ne le comprennent absolument pas. Mais justement, cela permet juste de faire ressortir ces couleurs. Et il y a quelques jours, malgré la grisaille du temps, le bleu des vitraux était encore plus intense, donnait du bleu à toutes les pierres de la basilique. Et ça, c'est absolument merveilleux, parce que on m'a raconté l'histoire de deux évêques qui étaient là pour une grande célébration, peut-être le 15 août, peut-être le 17 janvier. Et l'un des deux dit, oh, comme c'est beau, et l'autre dit à son confrère, tais-toi, c'est le ciel.
C'est joli.
C'est vrai.
Mais c'est totalement vrai. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que cette pierre blanche qui prend toutes les couleurs d'une certaine manière, est-ce que ce ne sont pas nos âmes qui devraient se laisser marquer de la sorte par les dons du ciel?
Oui, certes. Et je pense que la lumière du Christ va venir d'une certaine façon illuminer la couleur. Il y a quelques jours, c'était pour le 12 janvier, nous avons eu la messe qui était présidée par le curé de Pontmain. Et donc un héritier de l'abbé Guérin. Et le provincial des Oblats de Marie faisait la prédication. Et au cours de cette messe, il ne faisait pas beau. Et tout à coup, au moment de la Agnus Dei, il y a eu le soleil qui a traversé les nuages. Et comme une avalanche, mais une vague de bleu qui est entrée dans la basilique. J'avais en face de moi les piliers, c'était très beau. J'ai vu le recteur qui tournait le dos à cela, qui a eu l'air surpris, il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Comme si tout à coup, avec la présence du Seigneur parmi nous, eh bien, il y avait une lumière avec toutes ses couleurs qui prenait, je vais dire le pouvoir, mais en tout cas, qui nous prenait dans cette basilique, qui nous prenait dans cette lumière colorée. C'est merveilleux.
Il y a une page que j'aime particulièrement dans ce livre, mon père, c'est lorsque vous parlez de la mandorle qui commence à entourer Notre-Dame lorsque l'abbé Guérin arrive. Vous dites qu'elle représente une ouverture, une porte sur le ciel. C'est précisément le Yanoi de Chély des Litanies, l'un des titres de la Vierge, la porte du ciel. Pourriez-vous nous en dire davantage? Je trouve que l'image, je n'avais jamais envisagé cette mandorle comme une ouverture sur l'au-delà, mais c'est magnifique.
Alors c'est vrai que j'ai utilisé le mot mandorle d'une façon pratique, parce que c'est vrai que les enfants n'utilisent pas ce terme.
Ah, ils ne le connaissent pas, évidemment.
Évidemment. Cette porte qui est ouverte sur le ciel, c'est l'inscription qui est sur la colonne, qui m'a fait penser à cela, où on dit que le ciel s'est ouvert. Et le ciel s'ouvre pour nous montrer Marie, le ciel s'ouvre aussi pour nous y faire monter. Et c'est vrai que nous chantons cela dans les litanies de la Vierge, elle est la porte qui nous ouvre le ciel et qui rouvre la porte fermée par Ève. Et il y a, il me semble, à Poma, cet aspect du renversement de situation, qui dans une situation qui est sombre, chaotique, terrible, Marie arrive et voilà, la paix qui s'instaure, la joie, la lumière. Et j'aime le mettre en lien avec mon hymne latine préféré qui est l'Ave Maria Stella. Les gens n'y pensent pas, parce qu'on ne chante plus en latin.
Là. On ne le chante plus, l'Ave Maria Stella, malheureusement.
Ce que les gens de Romain savaient faire, hein, il faut bien le remarquer. À un moment, on parle de ce si grand Ave, Summens illud Ave, qui change Eve, le nom d'Ève. Parce qu'en latin, Ave, ce sont les lettres à l'envers de Eva, d'Ève, et ce renversement a lieu grâce à Marie, qui lorsqu'elle entend l'Ave, va renverser la malédiction d'Ève et rouvrir cette porte qui mène au ciel. C'est absolument extraordinaire et c'est ce que l'on vit à Poma.
C'est tout ce que dit le proto-évangile, la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent. Et effectivement, c'est d'une certaine manière ce que proclame Poma dans cette grisaille, cette tristesse, cette noirceur même du soir du 17 janvier 1871, quand la très pure et la très humble vient écraser les mots que le démon a lâchés sur la terre.
Exactement. Quand vous parlez de noirceur, c'est une des couleurs que j'ai choisies. Bon, la question est de savoir, les puristes me disent que le noir n'est pas une couleur, l'absence de couleur. Mais le premier noir que l'on voit là, c'est le noir que broient les pontamidois. Et c'est le noir que broient peut-être certains de nos auditeurs. Et ça, je le vois très souvent lorsque je parle avec des parents, des grands-parents qui sont désolés parce que leurs enfants ne pratiquent plus, ne croient plus, ne baptisent pas leurs enfants. Peut-être me permettez-vous de raconter une petite anecdote.
Bien entendu.
Sur la prière, c'est une des anecdotes que je préfère qui... Je l'ai mise dans ce livre sur la beauté de la prière et sur le temps de Dieu. Parce que la prière est centrale dans le message de Poma et le temps aussi. Or, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et je raconte l'anecdote suivante. C'est ma tante religieuse qui me l'a racontée. C'est une sœur de sa congrégation qui s'appelle Inès et qui, il y a 70 ans, avait 5 ans, 6 ans. Et la grand-mère d'Inès lui disait... avec son chapelet à la main, elle disait Inès, un jour Marie, elle va te sauver. Et la petite Inès a grandi sans dévotion mariale, sans que Marie n'entre dans sa vie. Et elle est ensuite devenue adulte, sa grand-mère est décédée, elle est entrée chez les sœurs, une communauté de spiritualité plutôt ignatienne, peu portée à la dévotion mariale. Et lorsqu'elle est une sœur déjà âgée, elle est envoyée dans une communauté du Cameroun, dans une région isolée où il y a des bandits, comme on les appelle dans la région. Et un jour, bon, Inès a plus de 70 ans à ce moment-là, il y a des bandits qui attaquent la maison. Et un homme se retrouve dans sa chambre et avec une machette et lui met la machette sous le cou. Et il lui dit, tu t'appelles comment? Et Inès ne sait pas pourquoi, nous ne savons pas pourquoi, répond Marie. L'homme lâche son emprise. Il va sortir de la chambre, il se retourne et lui dit, Marie t'a sauvé. Et il t'en va dans la...
C'est extraordinaire cette histoire.
Ah oui, voir comment la prière d'une grand-mère 70 ans plus tard, porte du fruit. Et c'est ça aussi pour moi. Priez. Bon, les Prussiens sont à Laval. Priez. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et le peu de temps de Dieu, c'est peut-être 70 ans, c'est peut-être 3 secondes. Mais il y aura cette certitude que Dieu nous exauce en peu de temps. Et ça, je l'explique aux gens en expliquant un peu ce qu'est notre prière. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu et il en fait ce qu'il veut et il en fera le meilleur.
C'est toute l'importance de la prière, mon père. Vous rappelez le cri de désespoir des habitants de Pomain le 15 janvier, le dimanche, deux jours avant l'apparition, au moment des vêpres, lorsque l'abbé Guérin veut allumer les cierges devant la statue de Notre-Dame de l'Immaculée Conception et que les gens lui disent « Non, à quoi bon prier ? Dieu ne nous écoute pas. » C'est la réponse céleste arrive moins de 48 heures plus tard, mais quelle réponse ?
Oui, et une réponse qui est presque qui est pleine d'humour. Et vous n'avez pas voulu le faire, ben, je vais le faire pour vous. Les étoiles vont le faire pour vous. Et ça, il y a quelques jours, une de mes amies toulousaines a lu le livre et elle m'a dit « Ah, oh, c'est une super production. Les étoiles bougent, les enfants disent, les gens chantent, on pleure, on rit, c'est extraordinaire. » Et cela finit par « c'est tout fini. » Et ça, croyez-moi, les Pontamiénois, hier j'ai fait le dimanche 12, lorsque nous avons ouvert cette semaine préparatoire, hein, en tout cas le dimanche avant l'anniversaire du 17 janvier, j'ai dit aux Pontamiénois qu'ils avaient une mission de prière, de prier pour tous les gens qui viendront dans cette dernière année de préparation aux 50 ans, et ensuite pour dire cette tendresse et cette délicatesse de Dieu par Marie.
Alors, cette prière qui passe par Pomain, elle passe aussi, il ne faut pas l'oublier, elle passe par la croix. Qu'est-ce que Marie montre à Pomain ? C'est la croix. Sous toutes ces significations, elles sont multiples. Vous rappelez que sur la croix de la sagesse de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il y a cette inscription « Si vous rougissez de Jésus-Christ, il rougira de vous devant son Père ». Ces mots qui ont nourri le courage et la foi des chrétiens depuis les premiers martyrs semblent aujourd'hui avoir perdu de leur force. Mais vous, mon Père, vous refusez de voir les catholiques, les prêtres et même les évêques rougir de leur Sauveur.
Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vous qui m'avez soufflé ce lien avec Montfort. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai le nom du Père de Montfort. Je l'ai pris lorsque je suis entré dans mon Saint-Ordre et je n'avais pas fait de lien avec la croix de la sagesse.
Ça m'est venu aux yeux en regardant une image du Père de Montfort. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est évident.
Et lorsque vous me l'avez dit, moi j'ai cherché toutes les images que j'avais du Père de Montfort avec une croix, je ne trouvais pas la croix. Et j'ai repris ses œuvres complètes. Et il y a une photo de cette croix qui est maintenant à Rome. Et c'est, me semble-t-il, fondamental. La croix est omniprésente à Pomain. Depuis l'arrivée de l'abbé Guérin, où cette petite croix rouge apparaît sur le cœur de Marie, en passant par le moment où elle tient à pleine main cette croix qu'elle montre aux enfants, et elle montre aussi les enfants à Jésus par la même occasion. Et enfin, par ces deux croix blanches qui sont sur ses épaules. Et là, je vous avoue que personnellement, parce que certes, on écrit un livre pour qu'il soit lu, théoriquement, et pour les gens qui l'auront entre les mains, mais il y a eu pour moi personnellement, je vous confie ça, tout un chemin de contemplation de la croix lors de la rédaction de ce livre. Le fait de regarder la croix et d'en parler, parce qu'il y a une chose que nous avons tous en commun, croyants ou non, c'est la souffrance dans nos vies, cette croix, la mort, qui nous touchera d'une façon ou d'une autre. Et là, à Pomain, il y a un grand message qui est donné à Marie autour de la croix.
Mais ce qui est tout à fait remarquable également, mon père, c'est que sur cette croix rouge, ce n'est pas le Titulus de Pilate, le Inri Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, qui apparaît, c'est simplement Jésus-Christ.
Oui.
Vous insistez sur l'importance du Saint-Nom de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour nous ? Il ne faut pas se tromper.
Et disons, ce n'est pas mon côté dominicain, si j'ose dire. Nous avons une vénération dans notre ordre traditionnel du Saint-Nom de Jésus, certes. Mais le nom de Jésus signifie « Dieu sauve », nous le savons. Je vois cette croix de Pomain aussi comme une nouvelle catéchèse que donne la Vierge Marie. Elle nous dit « Qui est celui qui est crucifié ?» Nos contemporains ne le savent plus, ne savent plus qui est Jésus-Christ. Et l'importance de ce nom, la puissance de ce nom, est à souligner, parce que même si nous ne connaissons pas son nom, il y en a un qui rôde dans les ténèbres, qui fait tout contre ce nom, hein, même s'il a déjà perdu, nous le savons. Et ce c'est toute une catéchèse que fait Marie. Une catéchèse qu'elle fait en silence. Et sa délicatesse pousse les voyants de bon mal, les enfants, les contaminants eux-mêmes, à donner une bande sonore à ce silence qu'elle garde.
Ce qui est magnifique, parce qu'il y a une interaction entre le ciel et la terre.
Ah oui. J'aurais aimé, je vous avoue, dans un premier temps, mais bon, j'ai abandonné ce projet quand le père Renaud m'en avait parlé. Au départ, j'aurais voulu inciter, enfin écrire quelque chose sur cette espèce de liturgie qui est créée entre la terre et le ciel, avec les chants. Mais je me suis rendu compte que nous ne connaissons plus ces chants. J'avoue, sans honte, c'est ma génération, que j'ai dû aller m'informer sur le Parce Domine, que je ne connaissais absolument pas.
Je vous avoue que le Parce Domine, je le connaissais, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver la suite, le cantique du 19e, mon doux Jésus, il faut maintenant pardonner à nos cœurs pénitents.
Ah oui, ça, j'ai trouvé, mais mettons au défi certains de nos auditeurs, peut-être tous, presque tous, de nous chanter l'Inviolata en entier.
Oh, l'Inviolata, personne ne le chante plus, hélas.
Nous le connaissons dans l'ordre dominicain, je l'ai chanté parce que j'ai chanté avec des frères étrangers, c'était la seule langue que nous avions en commun. Mais malheureusement, tous ces cantiques, toutes ces hymnes que chantent les pontaminois, nous en avons perdu non seulement le texte, mais aussi la théologie profonde qu'ils portent.
Et c'est cette théologie qui est très intéressante, vous la soulignez. Je crois qu'il faut que nos auditeurs s'en pénètrent, parce que, vous le dites très bien, c'est une véritable leçon de catéchèse qui passe à travers ces textes.
Tout à fait, et j'ai osé, alors que le 1%, je n'en sais rien, mais me pardonne, mettre le texte de ces chants in extenso avec leur traduction. Bon, leur traduction voudra ce qu'elle voudra, puisque elle n'a pas été fixée par les sauf pour le Magnificat. J'ai voulu mettre aussi ces textes, parce qu'on en parle, mais on ne les connaît pas et on ne sait pas ce qu'ils disent.
Mais il est important de les donner parce qu'en fait, ils entraînent un certain nombre de réactions de la Sainte Vierge et les phases de l'apparition qui se succèdent.
Oui, tout à fait. Et bon, moi, c'est un chant que j'ai découvert ici, celui de Mère de l'Espérance. On voit que Marie aime ce chant.
Elle le marque même le temps avec ses doigts, c'est extraordinaire, c'est unique.
C'est unique, oui. Et c'est pour ça que hier, j'ai osé, lorsque j'en ai parlé à certaines personnes, à Pontmain, parce que les gens m'interrogent sur ça. Je l'ai fait aussi lors de la conférence que j'ai donnée le dimanche. J'ai eu mon petit couplet franchouillard, comme je le dis. J'aime l'ancien texte, Mère de l'Espérance, dans le nom ici doux. Protégez notre France, priez.
Ce n'est pas un gros mot de parler de la France, encore moins de prier pour elle.
Oui, et puis encore moins pour moi. Alors, un peu malicieusement, j'avoue aussi, j'ai un côté taquin ou provocateur, je ne sais pas. Dans les couleurs que je propose, je commence par le bleu, le blanc, le rouge.
J'avais remarqué, mon père. ce sont les couleurs des vitraux.
Ce sont les couleurs des vitraux, j'aurais pu les mettre dans un autre ordre.
Ah non, le bleu domine tellement.
Oui, mais le blanc est premier avec la neige.
Ah, mais il y a le blanc de la pierre à l'intérieur qui reflète.
mais justement, j'en profite pour dire, ben oui, bleu, blanc, rouge, on ne peut pas parler de Pontmain sans parler de la France. Mais réduire Pontmain à la France, ben c'est justement réducteur. Et il y a d'autres choses, et il faut les deux. Et vous savez comme moi que le nom de la plus grosse cloche des clochers de Pontmain s'appelle la France.
Tout un programme. Mon père, cette émission touche à sa fin. Nous ne pouvons pas évoquer tous les aspects de ce livre. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage qui est fondamental. Mais pour conclure en deux phrases, à quoi sert Pontmain aujourd'hui, mon père ?
Je suis persuadé de l'actualité du message de Pontmain. Que les lecteurs se laissent surprendre par ce livre, parce qu'il y a des thèmes que nous n'avons pas pu aborder, évidemment. Il n'y a que quelques minutes.
Il faut en laisser un peu aux auditeurs.
Laissez-vous surprendre par Pontmain. Parce que c'est Dieu qui vient nous surprendre dans ce que nous sommes, et une fois encore, pour donner sa lumière à toutes nos couleurs, à toutes les couleurs de notre vie. Parce que Pontmain nous apprend cette contemplation. C'est un message, s'il y en a qui m'entendent, qui, je crois, est aussi destiné aux prêtres hein, d'une façon tout à fait particulière. Laissez-vous surprendre par Pontmain, laissez-vous prendre par la Vierge Marie qui tend ses bras. Il y a une tendresse dans ce message qui ne peut que nous faire bondir de joie comme les enfants du 17 janvier 1871.
Merci mon père. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions du Cerf, Pauma, couleur d'espérance, un titre qui dit admirablement le contenu de ce livre magnifique que j'incite tout le monde à lire. Je vous remercie encore de si bien évoquer l'apparition du 17 janvier 1871 et son message. Merci mon père.
Merci et au revoir à vos auditeurs.